Le débat du jour. Loïc Bussière.
Dangereux pour certains, indispensable à l'agriculture moderne. Pour d'autres, le glyphosate est plus que jamais un sujet sensible. L'herbicide le plus utilisé au monde divise jusque dans la communauté scientifique, dont une partie le classe cancérogène probable. En France, il y a encore peu, Emmanuel Macron promettait de s'en débarrasser à l'horizon 2020, avant, la semaine dernière, au détour d'un débat citoyen, de revenir sur cet engagement. La promesse est intenable, assure-t-il aujourd'hui, puisque nuisible aux agriculteurs français. Reste le fond du problème, la querelle des pros et des anti, de ceux pour qui le produit est irremplaçable en l'état, d'autres qui tirent la sonnette d'alarme au nom de la santé publique. Restent encore les promesses politiques qui se heurtent à la réalité du terrain. Sortir du glyphosate, l'ambition demeure. J'ai envie qu'on s'en sépare, affirmait le président lors de son intervention la semaine dernière à Bourg-le-Péage. Oui, mais comment faire et avec quelles conséquences? C'est la question que l'on pose ce soir avec nos invités. Nos invités Marc Dufumier et Christian Durlin. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Christian Durlin, vous êtes agriculteur dans le Pas-de-Calais, vous êtes vice-président de la commission environnement à la FNSEA. Marc Dufumier, vous êtes de votre côté agronome et professeur à l'AgroParisTech. Alors avant, messieurs, d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter ces quelques extraits, hein, bref, piochés dans l'actualité récente et qui illustrent justement cette question du glyphosate et les débats qu'elle sous-tend.
Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux.
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai.
C'est la raison pour laquelle, depuis le 1er janvier, nous avons interdit l'usage du Roundup pour les particuliers.
Je ne vais pas mettre le ministre en porte-à-faux par rapport à des engagements que j'ai pris. Si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières.
Le président de la République, contrairement à l'avis de l'Europe contre laquelle nous avons bataillé, l'Europe voulait 15 ans, puis 10 ans, et l'Europe a annoncé 5 ans, le président de la République française a dit, en France, ça sera 3 ans. En 2020, plus d'utilisation de glyphosate.
Make our planet great again.
Voilà, montage signé notre réalisateur Fabrice Yollet. On a entendu pêle-mêle Emmanuel Macron au salon de l'agriculture la semaine dernière, donc à Bourg-le-Péage dans la Drôme. On a entendu également Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, chez nos confrères d'RMC il y a 15 jours. Est-ce que, messieurs, ce que l'on vient d'entendre justement illustre les contradictions de cette question du glyphosate? Christian Durin, je me tourne vers vous.
Ben, ça montre surtout que le sujet, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Je crois que, il y a un sujet sur le glyphosate qui est apparu, mais je crois que c'est sur l'ensemble d'utilisation des produits phytosanitaires où il y a une interrogation. Et je crois que la profession a vraiment pris en compte la demande sociétale et les questions là-dessus. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de produits phytosanitaires, on a besoin du glyphosate pour mener bien nos cultures pour un certain nombre de sujets. On tend peu à peu, on travaille dessus à travers le contrat de solution pour les remplacer, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas par décret. C'est quand même, on travaille avec les choses de la nature et on doit trouver des solutions par rapport aux problèmes qui se posent aux agriculteurs.
Marc Dufumier, une réaction?
Alors, quand vous dites les scientifiques à contradiction, sachez que l'INRA a publié un rapport selon lequel la substitution glyphosate et technique, elles existent. Donc techniquement, c'est faisable. Et donc quand on dit on ne peut pas en 3 ans, ça veut dire on ne veut pas dans les 3 ans. Mais l'INRA est formel là-dessus, il y a des substituts. Bon, ils seraient plus coûteux. Donc c'est une question économique, c'est pas une question technique. Et quand on dit les dangers du glyphosate, on n'est pas sûr, c'est un cancérigène probable. Probable, ça veut dire qu'on s'interdit de dire c'est statistiquement avéré. Parce que quand les perturbateurs endocriniens, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres produits phytosanitaires, font... qu'on annonce, on prédit aux jeunes une espérance de vie en bonne santé de 10 ans inférieure aux gens de ma génération, ce n'est qu'une prédiction scientifique. Comme il y a 30 ans, on prédisait le réchauffement climatique, ce n'était pas avéré. Mais la démonstration, elle, existe. C'est-à-dire que le dysfonctionnement de nos glandes hormonales liées à ces produits en question fait que les jeunes, quand ils sont exposés, même à faible dose et prolongés, que ce soit les résidus pesticides, y compris le glyphosate dans la nourriture, ou que ce soit dans les couches, puisqu'on vient de découvrir du glyphosate dans les couches, parce que la cellulose, etc. Sachez que cette exposition des gamins et des jeunes à ça, c'est que des maladies du vieillissement vont apparaître 10 ans plus précocement. Mais ce ne sera statistiquement avéré, évidemment, que dans 60 ans, qu'on connaîtra la moyenne d'âge d'apparition de ces maladies, hein, Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, on ne le saura que dans 60 ans. Mais c'est néanmoins démontré. Il y a 30 ans, le réchauffement climatique était démontré. Maintenant, on peut dire, oui, c'est avéré. Les vendanges, en moyenne, les 30 dernières années, sont 10 jours plus précoces que les 30 années antérieures. Mais vous voyez que
la prédiction, la démonstration, elle est faite, mais on s'interdit que c'est avéré, on dit seulement probable. Et c'est ça qui fait le doute, le public se demande, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Et bien, ça veut dire quand même que c'est démontré, je suis désolé.
Christian Durlin, est-ce que le principe de précaution, il se heurte à la réalité du terrain?
Vous savez, le principe de précaution, il est dans la Constitution, mais je crois que si on active le principe de précaution... pour ce genre, pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer, que ce soit des problèmes de pollution atmosphérique ou principe de précaution, interdirait qu'on utilise encore la voiture, par exemple, ou qu'on utilise le téléphone portable. Donc, on a des questionnements. Je crois qu'on les choses, c'est facile de porter des jugements sur les choses quand on n'est pas confronté à la réalité économique au quotidien. Mais je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs et ils s'y engagent. Essaye de voir comment on peut réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et du glyphosate, mais c'est pas si simple que ça, et en plus c'est vraiment un faux problème que de l'analyser sur l'angle franco-français, puisque on voit bien que le glyphosate qu'on retrouve, on se pose toujours la question comment il arrive là, mais il arrive aussi beaucoup par des produits d'importation, hein, que ce soit des produits alimentaires ou du coton, ou ces choses-là, dans les couches forcément, si c'est du coton OGM de l'extérieur, ça peut être une source aussi. Donc c'est loin d'être aussi simple que ça, et je crois qu'il y a des enjeux économiques. On peut avoir des perspectives ou des envies politiques ou philosophiques, mais après il y a la réalité à traiter tous les jours.
Alors, je comprends bien effectivement ce que vous dites, et effectivement cette question du glyphosate et des produits phytosanitaires en général, elle est complexe. Il n'empêche, ce que dit M. Dufumier en gros, c'est si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Vous répondez, réalité économique, on peut très bien le concevoir. Est-ce qu'aujourd'hui on ne veut pas se passer du glyphosate?
Non, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport au cahier des charges que l'on a, économique ou technique, pour certains usages, alors je vous dis, c'est pas tout blanc tout noir, il y a certainement des usages où on peut ralentir l'utilisation, on utilisait moins, on n'en utilisait pas du tout, et aujourd'hui il y a des usages où on n'a pas d'alternative technico-économique qui tienne la route, parce que ça fait, on peut passer par un désherbage manuel, le glyphosate c'est un désherbant, on peut passer par désherbage manuel. Je vais juste vous donner un exemple, je fais du bio et de l'agriculture conventionnelle, le coût de production de l'oignon en production biologique, c'est 5 fois plus élevé qu'en conventionnel, à cause des coûts de désherbage. Donc vous voyez que ça veut dire que ces produits-là sont plus forcément, vous voyez le débat qu'il y a actuellement sur le pouvoir d'achat, sur les conséquences de la loi Egalim, etc. Les Français ont envie de santé, ont envie de sécurité, c'est tout à fait normal, mais ils ont aussi envie de préserver un pouvoir d'achat. Et nous, on est confrontés en tant qu'agriculteurs tous les jours à cette problématique-là, une dichotomie entre la volonté d'avancer sur les enjeux de santé et d'environnement, mais aussi sur les exigences de nos clients industriels ou consommateurs en direct.
Marc Dufumier, est-ce que vous comprenez ce pragmatisme?
Non, mais là où nous sommes d'accord, c'est techniquement... Enfin, c'est d'abord un produit dangereux, ça c'est démontré.
Le glyphosate,
c'est dangereux.
Tout le monde n'a pas conclu L'INRA a fait un travail en disant il y a des alternatives techniques, mélanger les alternatives
tous les et la dangereuse. Voilà la mauvaise défense.
Je vais vous demander de parler l'un après l'autre parce que sinon on ne va pas s'entendre.
Qu'il y a eu des travaux qui ont été faits en disant que techniquement on pouvait trouver des alternatives. La seule chose, c'est qu'elles ne sont pas forcément toujours applicables. Maintenant, il y a eu des travaux scientifiques qui ont été faits. Moi, je ne suis pas scientifique. Je ne vais pas me prononcer sur une réalité scientifique. Mais quand on regarde, il y a un certain nombre d'agences indépendantes qui ont conclu qu'il n'était pas possible de conclure que c'était cancérogène, justement, et d'autres qui ont conclu. Donc aujourd'hui, c'est un débat scientifique qu'il faut trancher, mais c'est pas nous agriculteurs. Et je crois que l'INRA n'est pas non plus il y a l'ANSES qui existe en France qui gère ces dossiers-là. Faisons confiance à nos agences. Si la façon de gérer les dossiers ne convient pas, ça c'est un débat politique sur les cahiers des charges, mais il y a une agence scientifique indépendante qui existe en France qui s'appelle l'ANSES qui aujourd'hui n'a pas conclu au caractère cancérogène du glyphosate.
Et qui il y a 15 jours, si je peux me permettre, a été mise en cause par le tribunal administratif de Lyon.
Ah oui, alors le tribunal fait de la science aujourd'hui, ça c'est une nouveauté, mais... ça pose des problèmes sur le reste. Bah oui, oui.
Donc vous me permettez de répondre un peu longuement. Mais l'ANSES, effectivement, dit que c'est sans danger, parce que quand on dit cancérigène probable, c'est pas statistiquement avéré. Donc il joue sur les mots. Mais soyons clairs, l'OMS est formelle et les scientifiques sont formels. C'est bien cancérigène probable dans le sens où je l'indique. C'est démontré, mais pas statistiquement avéré. Il faut le dire au grand public, c'est ça d'où vient l'incertitude. Et c'est là on joue sur cette incertitude pour faire croire que c'est sans danger, que ce serait éventuellement sans danger. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des techniques de substitution? Là, l'INRA, excusez-moi, c'est prononcé, vous m'avez interrompu, c'est formel. Oui, il y a des techniques de substitution. Et là où je vous rejoins, et c'est bien là-dessus qu'il faut débattre, c'est que c'est économique. Le problème n'est ni technique, ni problème de santé. Ne trompons pas les auditeurs. Disons que oui, l'absence de glyphosate et le désherbage manuel, ça coûte plus cher que les alternatives, les rotations de culture, des prairies permanentes, c'est l'herbe, la permaculture, c'est les herbes, c'est les plantes cultivées qui font faire de l'ombrage aux mauvaises herbes et pas les herbes adventices qui vont faire de l'ombrage aux cultures. Ces techniques alternatives sont plus coûteuses, sont plus artisanales. L'agriculture moderne de demain, plus artisanale, moins industrielle, meilleure pour la santé, elle doit être correctement rémunérée. Et moi, je serais syndicaliste agricole. J'aurais envie de dire ça. Oui, on reconnaît ça, parce que là, ils sont victimes aussi, eux, de ce qui leur est arrivé. On leur a dit, allez-y les gars, c'est sans danger, on leur avait même fait croire que c'était biodégradable, je veux dire. Il faut savoir aussi le mensonge dont ils ont été victimes, les agriculteurs. Et aujourd'hui, quand ils défendent envers et contre tout cette molécule, le grand public les comprend, non pas comme victimes, mais comme complices. Alors que la vraie réalité, et c'est ça qu'il faut dire à M. Macron, c'est que si on se donne les moyens et qu'on change la politique agricole commune, excusez-moi, vous m'avez interrompu tout à l'heure, si on change la politique agricole commune et que les subventions de la politique agricole commune vont vers le financement de paiements de services environnementaux pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de notre santé, alors là, les agriculteurs, moi je les défends, oui, il y a des techniques existantes et ils doivent négocier à ce que les services environnementaux et l'alimentation saine soient correctement rémunérés. Alors là, je suis vraiment de leur côté.
Christian Durlin, oui. Quand on parlait tout à l'heure d'absence de consensus et de diagnostic scientifique en ce qui concerne la question du glyphosate, on a tendance aujourd'hui à penser que les agences scientifiques qui défendent le glyphosate et qui estiment qu'il n'est pas un cancérogène probable reprennent la prose de Monsanto. Est-ce que vous souscrivez justement à ce constat-là ?
Alors, c'est pas un agriculteur qui peut répondre à cette question-là. Je crois que c'est une question qui est à débattre entre scientifiques et politiques pour savoir si les critères d'homologation et les cahiers des charges pour l'homologation des produits phytosanitaires ou des médicaments sont suffisamment élaborés. Mais ça, en tant qu'agriculteur, nous, on se fie quand même à un certain nombre d'autorisations qui sont données. Et je voudrais quand même rectifier par rapport à ce que dit M. Dufumier, nous ne sommes pas accro au glyphosate ni à aucune molécule. Nous, on veut simplement faire notre métier correctement et pouvoir fournir à la population et à l'industrie agroalimentaire et à la distribution le produit dont ils ont besoin. Et dans les cahiers des charges dont ils ont besoin, avec un coût qui soit abordable pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Que ça se fasse avec ou sans produits chimiques, c'est pas la question. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est pouvoir faire ce travail-là correctement.
C'est d'accord, mais c'est aussi la question. Quand vous dites fournir au public le produit dont ils ont besoin, tout à l'heure, vous évoquiez une demande sociétale. Est-ce que être en bonne santé, c'est une demande sociétale ou c'est une exigence légitime?
Et je partage votre interrogation. Allez voir dans les restaurations collectives, par exemple, d'où viennent les produits. C'est principalement des produits d'importation qui répondent à des appels d'offres des collectivités. Et on se soucie pas de savoir s'il y a du glyphosate ou pas sur les produits qui rentrent dans les restaurations collectives. Donc nous, en tant que producteurs, on est confrontés à ça tous les jours parce qu'on ne rentre pas dans ces cahiers des charges-là.
Marc Dufumier, vous évoquez justement un changement beaucoup plus global, pas juste un changement d'agriculture, un changement de politique agricole. Les circuits courts, faire du bio, ça semble être du bon sens et pourtant c'est compliqué à mettre
en place. Oui, c'est compliqué, ça va être une révolution agricole. Hein. Juste pour répondre à votre question sur l'ANSES et l'EFSA aux Europes, il y a quand même des journalistes qui ont fait leur boulot et qui ont vu les conflits d'intérêts. À savoir que les gens qui autorisent sont des gens qui ont déjà été payés ou sont encore payés par des multinationales. Hein. Donc ne vous y trompons pas, les agriculteurs sont victimes, on les trompe, on les a trompés et quand ils défendent ça, le public comprend qu'ils sont complices. Ça leur fait leur plus grand tort. Mais par contre, oui, défendre l'idée que ce sera une vraie révolution agricole, qu'elle est coûteuse et qui mérite d'être correctement rémunérée et qu'il faudra réaffecter les subventions de la politique agricole commune pour des produits sains et un environnement non détérioré, parce qu'on oublie aussi que derrière le glyphosate, aujourd'hui, dans les pays qui l'utilisent le plus, certes, à l'étranger, les régions du Canada, le sorgho d'Alep, les mauvaises herbes résistantes au glyphosate qui deviennent envahissantes, je veux dire, c'est une tromperie, hein. Donc moi, je pense que les agriculteurs devraient être attentifs au fait qu'ils ont été trompés, qu'ils sont victimes de ça. Ils sont aujourd'hui un peu discrédités parce qu'on leur dit « Ah ben, vous, alors nous, on voudrait une alimentation saine et ça a l'air de peu vous importer. » Et moi, c'est vrai qu'il y a une forme de défense de la profession agricole que je ne comprends pas. Je pense que les agriculteurs méritent, et les paysans méritent bien mieux.
Monsieur Durlin, tout le monde devrait être d'accord sur cette question de la santé publique.
Ah mais on est complètement en phase là-dessus. J'aurais quand même rappelé les choses, c'est que on travaille, on a des, enfin quand on travaille, on fait appel à des techniques, on fait appel à des produits qui ont reçu des homologations. On peut pas reprocher aux agriculteurs le fait que les homologations, elles sont faites dans tel et tel. C'est pas un problème agricole. Je suis désolé. Donc nous sur les questions,
les questions de santé. Je veux pas forcément le défendre. Mais il disait que c'est pas un problème agricole, mais un problème politique. Global.
Eh ben, il faut de la cohérence et c'est pour ça que nous, notre problème, c'est d'être aujourd'hui dans nos outils de production dans les mêmes lignes de concurrence avec marché unique, concurrence unique, outil unique. Il y a hors de question pour nous d'avoir une géométrie variable à l'intérieur de l'Europe sur ces questions-là, comme il serait anormal qu'on ait des accords multilatéraux entre les différents blocs commerciaux où on laisse rentrer des choses qui ne sont pas autorisées chez nous. Je suis désolé, on est loin d'être sur la même. On critique beaucoup l'agriculture française. Il faut quand même rappeler que c'est quand même l'une au monde des plus vertueuses sur ces questions-là et qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculture en France ou d'alimentation qui sont aussi suivies, aussi contrôlées que ce qu'on l'est en France. Et je peux vous dire qu'en étant limitrophe avec la Belgique, je vois bien la différence qu'il peut y avoir sur les suivis de réglementaires d'un côté ou de l'autre de la frontière.
Alors justement, tiens, puisque vous parlez de ce qui se passe à l'étranger, comment font, je vais me tourner vers vous, Monsieur Dufumier, vous évoquez le Canada, comment font les autres pays? Est-ce qu'ils sont aussi, je vais reprendre votre expression, accro au glyphosate que nous, qui sommes les troisièmes, si je ne dis pas de bêtises, les troisièmes utilisateurs au monde?
Oui, hors Union européenne, hein, les gens sont totalement accros, mais dans certains pays, c'est un désastre. Hein. Au Brésil, les herbes adventices résistantes au glyphosate deviennent de réelles mauvaises herbes, et parfois dans des champs de soja résistant au glyphosate, la première mauvaise herbe, c'est le maïs, et dans le maïs, la première mauvaise herbe, c'est le soja. Hein. Il y a des déséquilibres environnementaux, c'est beaucoup moins grave que les problèmes de santé, hein. Mais il y a quand même d'énormes problèmes environnementaux dans les pays. Alors c'est évidemment le glyphosate, mais c'est surtout la facilité que donnait ce désherbant pour pratiquer de la monoculture. Quand je suis au Canada, au Québec, je leur dis, mais quand même, vous auriez des rotations. Et le type me dit, mais oui, maïs, blé d'Inde, maïs, blé d'Inde, maïs, blé d'Inde. Alors le français, il pose la question, qu'est-ce que c'est que le blé d'Inde? Il me dit, c'est du maïs. Ben oui, mais les problèmes, ils sont là. C'est que le glyphosate, parce que ça aide et ça diminue les coûts de production, a été une invitation à la monoculture avec tous les déséquilibres écologiques qui en résultent. Et ça, donc les problèmes sanitaires et santé, il faut surtout pas les minorer et commencer à dire, non, mais attendez, il y a une incertitude scientifique. Là, on est méchant. On est méchant avec les agriculteurs, on est méchant avec les consommateurs. Mais en plus, il y a des problèmes environnementaux. Et oui, il y a de très graves problèmes aujourd'hui environnementaux dans les pays où prédomine la monoculture et où prédomine la monoculture à cause du glyphosate.
Est-ce que un exemple comme celui de l'Argentine, par exemple, qui est le premier utilisateur au monde de glyphosate, qui a vu son nombre de cancers multiplié par 3 en 10 ans, ne devrait pas nous inspirer, nous alerter? Je me tourne vers vous pour le coup, Monsieur Durlin. Vous vouliez parler.
Oui, alors, je ne connais pas assez les situations des autres pays et il faudrait être vraiment scientifique et sur le côté médical pour essayer de vraiment de trouver les origines. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'au niveau de la profession, parce que vous parlez de la FNSEA, aujourd'hui, on veut dépasser ce débat-là. Bon, c'est clair, pour des raisons objectives ou non, il y a une demande de la société sur moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Le glyphosate, c'est un exemple, mais il y en a aussi pas mal d'autres. Et on s'est pris en charge au niveau de la profession, mais les filières, pour essayer de faire se lancer dans ce fameux contrat de solution où on essaye de faire un genre de catalogue de solutions où on peut se passer des produits phytosanitaires. Et là-dessus, on voudrait bien avoir un coup de main. En particulier de l'INRA, là on attend vraiment des solutions, parce que c'est bien de dire qu'il faut se passer les produits phytosanitaires, mais il nous faut des solutions qui fonctionnent techniquement et économiquement. Et aujourd'hui, on n'en a pas suffisamment. Et là, je pense que l'INRA, pour le coup, peut encore nous aider un peu plus que ça. Oui.
Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Dufumier, que les agriculteurs sont victimes de cette situation. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous, Christian Durlin. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans le Pas-de-Calais et vice-président de la commission environnement à la FNSEA. Marc Dufumier, agronome et professeur à Agrotech Paris. Dans quelques instants, c'est le retour de l'information sur Radio France Internationale. Belle soirée à notre écoute.